Vous écoutez Bram FM, bonjour. Lulu à l'antenne. Dissier d'ailleurs quitte le studio Tuliste pour accrocher au micro la verdure corrézienne. Sous les chants d'oiseaux, vous les entendrez peut-être, je l'espère. Cette émission va vous porter dans un univers très particulier. Chez Monsieur et Madame Rossard, à Fressinge de Saint-Mexan. Ils vont nous conter leur élevage. Pas l'animal totem de la Corrèze, qui est la vache, comme vous le savez, mais d'une petite bête que tout le monde croit connaître. Mais cet animal secret a tellement de capacités qu'il méritait une émission à lui tout seul. Apparu il y a à peu près 540 millions d'années, 200 millions d'années avant les dinosaures, d'après les spécialistes, et les premiers hominidés, pour faire une comparaison, si je peux me permettre, 2,5 à 2,8 millions d'années, vous voyez la différence. Et nous, les homo sapiens, 300 000 ans. On pourrait dire, on est des rigolos à côté. Ils ont su s'adapter. Cette petite bête a développé une faculté d'adaptation qui mérite le respect, qu'on lui porte une attention toute particulière au vu de ses capacités hors normes. Dès lors, il me fallait des spécialistes et pour lever le secret et les secrets de ce petit animal. C'est pour cela que je me suis tourné vers Monsieur et Madame Rossard à Saint-Mexan et qui sont des spécialistes puisqu'ils ont un élevage de cet escargot. Merci de m'accueillir dans votre ferme. Bonjour.
Bonjour.
C'est très sympathique. J'ai appris plein de choses. C'est la première fois que je suis venu vous voir. Vous m'avez fait visiter votre ferme. Et donc, voilà, nous avons décidé en commun de faire une émission. Alors, votre ferme s'appelle Cagouille 19. Pour quelle raison cette appellation?
Oui, bah alors en fait, quand j'étais gamin, j'allais dans les Deux-Sèvres chez ma tante en vacances. Et moi, j'avais qu'une hâte, en fait, pendant les vacances, c'est qu'il pleuve pour aller à la cagouille. Donc, chercher les escargots, j'aimais bien les ramasser, j'aimais bien les cuisiner et j'aimais bien aussi les manger. Donc en fait, Cagouille 19, ben, c'est tout simplement en fait, voilà, un reste de ce que j'ai vécu quand j'étais gamin et c'était tout naturellement qu'on l'appelait Cagouille 19.
Voilà. D'accord, donc en fait vous aimez les ramasser, vous aimez les préparer et les manger. Donc vous avez la palette complète de ce que vous faites actuellement dans votre travail avec votre dame.
Exactement, oui, c'est vraiment le...
Vous êtes installés tous les deux, donc vous vivez à deux sur cet élevage.
Oui, alors cette ferme, c'est une ferme hélicicole qui est relativement récente puisqu'elle a été créée en avril 2023, donc on a fait une première grosse production qu'on a vendue en hiver et qu'on est en train d'écouler là cet été. Là on attaque notre deuxième réelle production.
On va y arriver. Vous êtes installé donc depuis combien de temps?
Alors en Corrèze, oui. En Corrèze, on est arrivé donc de Ré-Loire, on est arrivé en 2008. On avait acheté un commerce qu'on a tenu jusqu'en 2017 et on a créé la ferme en 2023. Du coup, en avril 2023.
Qu'est-ce qui vous a amené donc, vous m'expliquiez tout à l'heure que vous aimez les escargots, mais qu'est-ce qui vous a amené quand même d'en faire une profession? Parce que de là à les ramasser pour son plaisir et les cuisiner, de les manger, à passer en faire une profession, il y a quand même un pas à franchir.
Oui, en fait, un jour je suis tombé sur une émission de télévision qui parlait d'escargots et qui parlait qu'il y avait un marché sur l'escargot. Donc je me suis renseigné un petit peu et je suis parti 3 jours à Besançon en découverte de l'escargot pour voir un petit peu voilà, comment on pouvait l'élever, comment on pouvait le commercialiser. Suite à ces 3 jours, j'ai été plutôt content d'avoir vu tout cela et je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire sur l'escargot. Donc je me suis engagé sur une formation qui a duré 2-3 mois, c'était en distanciel plus... en présentiel sur Besançon et donc j'ai fait cette formation pour pouvoir créer la ferme.
C'est une école particulière.
Ah oui, il n'y a que 2 écoles en France, c'est un domaine assez particulier, il faut savoir qu'on est très peu nombreux, on n'est que 400 héliciculteurs en France.
Sur tout le territoire.
Sur tout le territoire, ouais. Alors qu'on est les plus gros consommateurs d'escargots au monde, on mange 65% de la production mondiale. Et les héliciculteurs français aujourd'hui représentent à peine 10% de ce marché. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on s'est lancé dans l'élevage en se disant mais finalement pourquoi on en importe 90% alors que c'est une spécialité française. Donc voilà, le marché est là.
Ouais, j'ai trouvé le, Les chiffres à peu près, je crois que les ai marqués. On va en reparler en fin d'émission, c'est quand même énorme ce que les Français mangent comme escargot par rapport à d'autres pays.
Oui, bah oui, en fait, mais c'est très festif. Donc en fait, deux tiers de la consommation se fait pour les fêtes de fin d'année. Mais nous, justement, on essaie aussi de changer tout cela en essayant de proposer l'escargot tout au long de l'année avec des formes, on le verra sûrement tout à l'heure, mais des formes culinaires un peu différentes de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, on pense qu'il y a moyen de manger l'escargot autrement qu'en fin d'année.
Oui, donc le côté festif que vous dites, on peut le trouver aussi à n'importe quel moment de l'année, entre amis, pour des soirées ou l'été. Ça tombe bien, c'est la période estivale aussi.
Oui, oui, exactement. Oui, oui, de se faire plaisir avec une douzaine d'escargots ou d'autres produits qui peuvent venir de l'escargot.
Donc, dans le cadre de votre formation, vous aviez une partie aussi avec un professionnel. Vous étiez obligé de faire un stage chez ce professionnel ou pas ?
Alors, dans mon cas, non. On a visité des fermes d'élevage. Par contre, on passe ce qu'on appelle des UCAR, en fait, des formations avec un examen. Et puis, donc, qui était sur la production, donc la production dans les parcs d'escargots, mais aussi sur la transformation, parce qu'il y a quand même pas mal de règles, notamment sanitaires, à respecter et à connaître. Donc bien c'est sûr. Très important de se former sur les listicultures et même en étant formé sur l'élevage, qui est délicat, qui n'est pas compliqué mais délicat, on peut faire des erreurs. Donc c'est très très important d'être formé et pas se lancer, c'est vraiment technique.
Cette école, il demande quel niveau, bac, brevet ou plus comment ?
Non, c'est non. Ouvert. Non, c'est ouvert à tout le monde. Après, tout le monde peut se former à l'héliciculture. Non, il n'y a pas de frein à ça en tout cas. Et il n'y a pas d'âge non plus.
Il n'y a pas d'âge.
Non, il n'y a pas d'âge. La preuve, nous, on le fait, on a presque 50 ans. Donc, c'est aussi, nous, c'est aussi un nouveau challenge. Hein. Voilà,
bien
en disant, y a des choses à faire. Et puis, on y va, on travaille et puis on voit ce que ça donne.
Et le fait de s'installer à deux, c'était quand même prendre un risque d'une certaine manière. Alors, parce que vous partiez dans l'inconnu quand même.
Oui, on est parti d'une feuille blanche. Donc, le challenge pour l'instant, il est là, mais il n'est pas gagné. C'est-à-dire que nous, on estime qu'il faut 3 ans à peu près pour monter une activité, hein, quelle qu'elle soit. Donc là, on travaille pour l'instant. On veut faire les choses bien. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mis tous les deux, pour pouvoir justement se consacrer à 100% sur l'élevage, qui quand même demande beaucoup de temps. Parce qu'il y a l'élevage, mais il y a la transformation aussi.
Et la vente, après,
la vente, exactement. Donc c'est quand même assez chronophage comme métier.
En fait, vous maîtrisez tout le processus, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la vente, jusque dans l'assiette, si on peut dire.
C'est ce qui fait partie aussi de notre motivation. C'est-à-dire qu'il y a 3 facettes, finalement, comme vous dites. Il y a la production, il y a la transformation et il y a la commercialisation. Donc, c'est diversifié. En plus, on a la chance parce qu'on est quand même dehors l'été, avec les escargots dans les parcs. L'hiver, on fait la transformation et puis on fait quelques marchés de pays l'été. Donc, ça se passe plutôt bien.
Surtout, chers auditeurs et auditrices, le jour que vous montrez voir cette exploitation, vous verrez le cadre est idyllique. Et je le dis comme je le pense, vous travaillez dans un endroit merveilleux, la campagne est généreuse, donc vous ne pouvez pas mieux tomber. Ça compense aussi le fait de travailler dans un environnement agréable et certainement plus motivant, non ?
Nous, on se considère comme des gens privilégiés.
C'est beau, ça, de dire cela.
Oui, parce qu'on est déjà en Corrèze, donc on est le pays vert. On trouve qu'on a une qualité de vie qu'on n'a pas partout. Et puis, effectivement, là, à Fressinge, on est dans un coin où on est tranquille. On est, nous, vraiment en symbiose avec la nature, c'est ce qui nous plaît. Et puis, on se lève le matin, on est content d'aller dans notre jardin et de faire ce que l'on fait aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est agréable d'entendre cela ? Il y a tellement de gens qui aimeraient changer, soit de parcours ou même d'environnement. Je pense à tous ces gens qui habitent, et notamment les enfants qui naissent et qui vivent sur du béton et du goudron. Je ne peux que penser à eux. Merci de dire cela. On va revenir à cet animal. Un escargot, ça pèse combien en moyenne ?
Alors nous, oui, c'est petit. Après, nous, on a une race un peu particulière. On est sur un escargot gros gris. Donc en fait, on va être sur un calibre qui est entre le petit gris, donc qu'on trouve dans nos jardins aujourd'hui, et l'escargot de Bourgogne. Donc on est sur un escargot taille adulte qui fait environ 20 grammes.
Vous élevez combien d'escargots ?
Alors, l'élevage, on a lâché encore cette année un peu plus de 200 000 escargots. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un élevage où on estime qu'on a un minimum de perte de 30%.
Donc, 30% de perte.
Oh oui.
Mais c'est une perte naturelle ou c'est dû à des mauvaises techniques d'élevage? C'est dû à quoi?
Alors, il y a différents facteurs. Déjà, l'escargot a beaucoup de prédateurs. Donc, déjà, il y a ça. Après, il y a aussi le fait que quand on les met dans les parcs, ils sont vraiment tout petits, ils font 35 mg, donc ils sont très, très vulnérables. Donc, il y a une perte aussi à ce niveau-là. Et puis après, on a les conditions météorologiques aujourd'hui. Donc, la grêle, ça peut être un facteur pour nous qui peut décimer, enfin, au moins une bonne partie de notre élevage s'il y a un fort épisode de grêle, si les escargots sont sortis. Et puis après, on a aussi la chaleur. Donc en fait, notre escargot, à partir de 90 jours, devient sensible si on a des nuits trop chaudes. Donc contrairement à ce que l'on peut penser, les gens nous disent souvent « mais quand il fait chaud, vous arrosez ». Et en fait, c'est tout l'inverse. Quand il fait très chaud, on stoppe tout. On arrête l'alimentation et on arrête l'arrosage. De telle façon à ce que notre escargot se mette en estivation et ne
bouge
plus.
Vous appelez ça l'estivation?
Oui, alors l'hibernation, donc l'hiver, et l'estivation, l'été. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et donc, si en fait, l'escargot se met au repos et il ne faut absolument pas le stimuler. Sinon, il chope en fait la bactériose et c'est fatal pour lui.
Et si toutefois vous arrosez, il va arroser la nuit, pas le jour, avec en plein soleil, la chaleur, non?
Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'escargot, il vit principalement la nuit. Donc en fait, nous, l'arrosage se fait la nuit et se fait en fonction des températures extérieures que l'on a. C'est jamais pareil, en fait. On gère au jour le jour, en fonction, on est accaparé vraiment par la météo et tout le temps
bien
en train
sûr,
de regarder.
Voilà,
ouais. C'est un facteur.
Cet animal, vous me dites, il vit la nuit, c'est parce qu'il craint la lumière ou c'est un rythme biologique naturel?
Alors c'est un rythme biologique, mais qui lui est propre, mais qui lui permet aussi de vis-à-vis des prédateurs, en fait.
Oui.
En journée, il y a les oiseaux, la nuit, ils ne sont pas là. Oui. Donc, en fait, il sort la nuit, justement, pour se prémunir. Alors, du soleil, de la chaleur, comme vous dites, mais effectivement aussi des nuisibles qui peuvent...
Les nuisibles, quels sont-ils? Bon, vous me dites les oiseaux, les rats, non?
Oui, ils sont nombreux. Alors, le rat, pour nous, c'est le pire. C'est-à-dire qu'un rat, une fois qu'il est rentré dans un parc, c'est une catastrophe, parce qu'il adore ça. On a les lézards, on a les grenouilles, on a le ver luisant.
Le ver luisant.
Oui, ça peut paraître surprenant. Mais le ver luisant, en fait, s'attache sur l'escargot et le liquéfie, en fait. Et le paralyse, et le liquéfie, et le mange comme ça. En fait.
Le ver luisant, il y a plein de différentes sortes de vers. Et pourquoi le ver luisant?
Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on en voit très peu.
Moi, le soir, c'est la moins qu'un.
Oui, mais quand on va dans le jardin, on n'en voit pas. Mais dans les parcs, on en voit. Donc, une fois de plus, la nature est quand même plutôt bien faite et ça vaut aller.
Ouais.
Donc, dans les parcs, il y en a.
Voilà. Ah oui, des vers luisants. Oui. Écoutez bien, auditeurs, auditrices, les vers luisants, prédateurs des escargots, voyez-vous. Dites-moi, tout à l'heure, on parlait du poids. Est-il vrai, j'avais dit ça sur une revue? Non, je m'attends à tout. Parce qu'on entend des fois tout et son contraire. J'aimerais savoir, il paraît qu'en Afrique, donc, il y aurait des escargots géants.
Oui, alors souvent, il y a la catine, donc c'est un escargot beaucoup plus gros que
alors,
l'escargot.
J'avais vu sur cet article, certes, ils avaient trouvé des escargots à presque 1 kg, 1000 grammes.
Ah oui, alors ça, je connais pas le poids, mais...
Oui, qu'ils faisaient 20 centimètres.
Ils les coupent en morceaux, du coup.
Ah oui, est-ce qu'ils sont mangeables, d'ailleurs, ces escargots?
Probablement, oui, je pense que là-bas, ils doivent les manger. Mais après, c'est vrai que le gros riz, nous, on a la chance, c'est qu'on est sur une finesse de chair. Qui est intéressante et on le voit bien nous avec les clients, les restaurateurs où effectivement on a la chance d'avoir ce produit.
Donc on parle toujours des escargots de Bourgogne. Est-ce qu'on a le droit de les ramasser dans la nature?
Alors ils sont protégés, mais il y a des règles. On peut les ramasser, mais il y a des dates. Je crois que c'est à partir du 1er juillet.
Oui.
Voilà.
Avec des quantités certainement.
Oui, et aussi un diamètre à respecter. Il faut qu'ils puissent être reproduits déjà au moins une fois.
Vous me disiez tout à l'heure que les Français ont mangé beaucoup d'escargots. On n'est pas les seuls, je crois, tout le pourtour méditerranéen est mangeur d'escargots.
Oui.
Les Asiatiques aussi, certains pays d'Asie, non?
Ah, peut-être, non. Ça,
apparemment,
je ne sais pas.
D'après ce que j'ai pu lire.
Mais bon, quand on voit qu'on en mange 65%,
ouais, donc,
et qu'on n'est que 60 millions, on peut se dire que les autres n'en mangent pas beaucoup par rapport à nous.
En fait, le fait que la France soit un pays touristique, certainement incite ou apprend aux populations qui viennent d'ailleurs la dégustation d'escargots, et peut-être peut provoquer une envie d'en manger après le reste de l'année, une fois qu'on est retourné chez soi, non?
Oui, moi, je pense que, bon, après, c'est quand même... il peut y avoir un aspect un peu déroutant, je dirais, sur l'escargot, quand on ne le connaît pas. Mais c'est vrai, quand on y a goûté... c'est comme beaucoup de choses. Ouais. Mais même nous, on a certains clients qui des fois n'aimaient pas et qui ont goûté à ce que l'on fait et qui se disent ah oui effectivement c'est pas pareil.
Dites-moi pour se déplacer. Alors on dit qu'ils ont un pied. Alors qu'est-ce que pour quelle raison on dit qu'ils ont un pied? C'est quoi? Et pourtant ils sont c'est pas un morceau de chair quoi.
Ouais mais c'est ça. Mais c'est un pied en fait. C'est via le pied qui se déplace avec aussi leur bave. Donc, ils se déplacent comme ça. Alors, ils font 7 mètres à l'heure.
7 mètres à l'heure.
Oui, donc ça peut paraître pas énorme, mais sur un élevage, quand ils partent dans toutes les directions et si vous avez des fuites au niveau de vos clôtures, ça peut vite devenir problématique.
On en revient à ce que je disais dans la présentation de l'émission au début. C'est quand même un animal remarquable. Ils sont là bien avant nous. Ils paraissent fragiles et ils ont une certaine fragilité. Et ils sont là depuis très longtemps. Ils ont su s'adapter. Et ils ne font que 7 mètres à l'heure, ils ne peuvent pas fuir ou très peu.
Oui, c'est ça. Alors moi, ce qui me fascine chez l'escargot, c'est qu'un escargot ne recule jamais.
C'est vrai, très bonne question. Donc, l'escargot ne recule pas, oui.
Voilà, il fait demi-tour, mais il ne recule jamais. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui démontre ce que vous venez de dire. Et c'est un animal... qui mérite toute notre attention.
En norme.
Ouais, puis qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Et je reviens un peu à ces 90% aujourd'hui qui viennent des pays de l'étranger, notamment des pays de l'Est, via l'escargot de Bourgogne, où il y a une grosse confusion aussi là-dessus. C'est-à-dire que les gens ont l'impression de manger un escargot de Bourgogne. Mais non, il ne vient pas de Bourgogne, l'escargot. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire et de le faire connaître. Voilà.
On va se faire une petite pause musicale et on se retrouve...
desafio que assim não vi pra Teresia.
On se retrouve donc à la ferme de Pressin de Saint-Mexant pour des escargots chez monsieur et madame Rossard. Alors, on parlait d'un peu de ce petit animal remarquable. Les escargots sont des animaux à sang froid ou à sang chaud?
Non, ils sont à sang froid, donc en fait, c'est pour ça que notamment l'escargot gros riz craint le gel. Donc c'est toute notre problématique aujourd'hui, c'est de lâcher les escargots pas trop tôt, c'est-à-dire après souvent les cinq glaces, après les gelées tardive, et puis les récolter suffisamment tôt avant le gel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'escargot est photopériodique, donc plus les jours seront courts et plus il aura de difficultés à croître. Donc il faut vraiment essayer de les lâcher le plus tôt possible pour réussir. On a 4-5 mois pour faire un escargot et qu'il arrive ce qu'on appelle bordé, donc à maturité.
À maturité. Bon, ils ont un système pulmonaire avec les réserves d'air. Ça fonctionne comme le reste des animaux à ce niveau-là, sur le système respiratoire. Ils respirent par la bouche, non?
Oui, ils ont des dents même. Ils ont de nombreuses dents, des yeux.
Les escargots ont des dents.
Ah oui. Alors ça peut paraître... enfin, quand on est le soir dans les parcs et qu'ils sont sortis et qu'ils mangent, on les entend manger. Voilà, bon, ils sont nombreux, mais on les entend manger, on les entend grignoter.
Bon, vous entendez bien, chers auditeurs, les escargots ont des dents. Donc peut-être que les poules auront des dents, je ne sais pas. Ils ont combien de dents?
Je crois... Alors, je sais pas, entre 16 et 20 000, je crois que c'est assez énorme.
Ah oui, quand même. Ces dents, elles se trouvent sur des petites mâchoires ou sur des langues? Comment ça se passe?
Ça fait un peu comme une râpe. Ouais. Mais pour qu'il y en ait autant, oui, c'est vrai que c'est...
Alors, vous allez me dire, si c'est peut-être pour cela maintenant que j'apprends qu'ils ont des dents. Parce qu'apparemment, ils mangent au-delà de l'herbe, ils mangent des déchets végétaux aussi. Ils peuvent sucer des choses plus dures.
Ah oui, mais on récupère parfois des invendus de magasins qu'on donne aux escargots. Alors, on leur donne notamment des carottes, ils grignotent les carottes. Ils sont très friands d'endives, ils adorent l'endive, le chou chinois aussi. Ça fait partie des mets, ça ils adorent.
Ah oui. Alors, est-ce vrai que... Je l'ai entendu une fois, je ne l'ai pas cru, mais vous allez me le confirmer. Est-ce vrai qu'ils peuvent manger des vers de terre quand ils crèvent de faim? Est-ce vrai?
Alors ça, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Il y a quelques vers de terre dans les parcs, il faudrait peut-être se renseigner. Mais c'est possible. Après, quand on a faim...
Ouais. C'est pas une espèce cannibale, non?
Non, ils peuvent se manger un petit peu parfois quand ils sont vraiment naissins, quand ils sortent des œufs, quand ils se transforment de l'œuf en naissin. Il peut y avoir quelques risques de cannibalisme.
Merci. Oui.
Mais sinon, non, après, une fois qu'ils sont dans les parcs...
Alors, tout à l'heure, vous me parliez de comment vous appelez ça, le mucus, c'est ça, sous le pied pour se déplacer. Alors, est-ce vrai qu'ils peuvent se déplacer même sur des éléments coupants?
Alors, après, il y a des choses qu'ils n'aiment pas trop. C'est-à-dire que si vous mettez des coquilles d'œufs, que c'est justement coupant, ou de la cendre, des choses comme ça, c'est quand même répulsif pour eux.
Oui.
Il faut qu'ils soient quand même sur quelque chose ou qu'ils puissent passer comme le bois, enfin des choses quand même relativement lisses.
D'accord.
Après, ils ont une faculté, ce qu'il faut savoir, c'est un escargot, il monte toujours. Il a toujours tendance à monter. C'est pour ça qu'on a des formes de parc aussi, qui sont de cette forme, parce qu'ils montent sur les planches systématiquement.
Est-ce qu'ils entendent des bruits? Est-ce qu'ils ont un conduit auditif?
Alors, ils sont sensibles surtout aux vibrations et après, au niveau des yeux, on estime qu'ils voient sûrement des ombres. Enfin, vous voyez, ils n'ont pas une vision claire, mais ils sont quand même sensibles à l'éclairage. Et après, c'est surtout les vibrations.
Ils ont 4 antennes, alors les fonctions de ces 4 antennes.
Ah, alors vous avez donc les deux, les yeux, et puis après vous avez...
Les yeux, c'est sur les antennes les plus grandes,
les plus
longues.
Oui, c'est ça, et après c'est... les nantibules qui sont sur le devant, qui
en
est
fait,
là.
C'est le tactile. C'est
exactement,
le tactile.
C'est là, ben, quand ils mangent notamment.
D'accord.
Ils vont chercher avec ça et comme ils voient pas bien, et ben voilà.
Donc de leur nourriture, vous donc vos parcs, je les ai vus. Vous allez nous expliquer. Vous laissez pousser de l'herbe. Vous mettez des planches de bois.
Comment oui, ça se passe, oui. Alors on a, alors on a un couvert végétal donc au milieu. Donc on sème tous les ans. Et puis après on a des planches sur les côtés. Et sur ces côtés-là, ils viennent donc en journée se cacher sous les planches. Et puis après, on a ce qu'on appelle un système de mangeoire, donc sur des planches également, où là, on dépose un complément alimentaire à base de calcium et de céréales qu'on distribue généralement le
sous
soir.
Sous forme de farine ou de granulés ?
Alors, j'ai les deux. Comme on a deux systèmes de parc, j'ai un parc où j'ai un système de farine et un autre un système de granulés. Les deux existent.
Vous avez fait une évaluation, qu'est-ce qui est le mieux ?
Alors aujourd'hui, je n'ai pas assez de recul. Mmh. Le granulé, je trouve que c'est pas mal parce qu'ils se mettent sur un granulé, ils le grignotent. Je trouve ça plutôt sympa, moi.
Ouais, puis, ouais.
Bon, c'est plus facile à distribuer que de
oui,
la farine.
Ça représente moins de pertes, peut-être.
Oui, aussi. Oui, mmh. Oui, oui.
Donc, est-ce qu'ils mangent des fruits, les escargots, non ?
Si, ça peut, mais ça après, peut. Ils sont pas. C'est pas. On avait mis un peu de kiwi, des choses comme ça, mais c'est pas ce qu'ils préfèrent.
Dans la nature, ils ne mangent que du végétal, ou ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez faire un élevage sans un apport en calcium ou autre, ou en farine ?
Alors oui, ça serait sûrement possible. Après, la grosse difficulté, ça serait de réussir à faire cet escargot en 4 à 5 mois.
Oui.
Et on serait sur une densité inférieure aussi, parce
oui,
que le couvert végétal ne suffirait pas rapidement.
Oui. Oui.
Voilà, là, généralement, le soir, ils ont tendance à aller sur le complément alimentaire. Et le matin, on les retrouve surtout dans les végétaux. Ils viennent aussi chercher la fraîcheur, parce qu'un escargot boit beaucoup. Donc,
escargot boit beaucoup.
Et oui, il leur faut de l'eau. Donc, ils viennent chercher la rosée aussi sur le couvert végétal.
Pour fabriquer déjà le mucus.
Exactement,
là.
Exactement.
Ouais. Et la coquille, le développement de la
oui,
coquille.
Oui, bah, puis même nous, hein, on a.
Oui, bien sûr. Alors, on va en revenir juste le terme héliciculture. Ça vient d'où ce terme hélice,
c'est le. Oui, bah, ça vient en fait du nom de l'escargot, donc hélix.
Oui.
Nous, on fait de l'hélix aspersa maxima, donc escargot gros gris. Et vous avez l'hélix aspersa ou aspersa mulaire qui est le petit gris. Donc ça vient de là. Donc c'est héliciculteur, ferme hélicicole.
Et
hélix pour l'escargot.
Alors leur coquille, on en revient avant de passer à autre chose. Leur coquille, elle tourne toujours à droite.
Oui, toujours dextre dans le
sens. Dans le sens des aiguilles, nous
montrent. Oui, sauf il peut y avoir ce qu'on appelle des senestres. Mais ça, c'est très rare. Moi, j'en ai jamais vu en tout cas dans nos parcs.
Qui tourne à gauche, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est assez surprenant, mais il y en a quelques-uns, apparemment.
Donc si vous en trouvez une coquille comme ça, vous aurez un trophée, gardez-la.
Et exactement.
Non. Dites-moi, est-ce qu'ils sont sensibles aux odeurs aussi ? On parlait tout à l'heure de la lumière et autres.
Alors, je ne sais pas, mais probablement un peu quand même. Oui, je pense, oui. Ouais, mais pas. J'en suis pas persuadé. Oui. Ouais. Oui, mais bon, pas. Oui, c'est surtout tactile. Hein.
Madame, vous vouliez dire quelque chose ?
Elle est à côté, mais.
Vous voyez, quand c'est très. Venez voir ces gens-là, vous verrez, vous serez très bien reçus. Dites-moi, est-ce qu'ils sont sensibles à la pollution ? Parce que vous vivez dans un cadre qui est merveilleux, vous faites un élevage, j'ai envie de dire, naturel, c'est presque du bio, c'est du bio.
Oui.
Dans la nature, est-ce qu'ils sont sensibles à la pollution dans un endroit où il y a des sulfates, des pesticides ?
Bien sûr, mais bien sûr, on l'a vu il y a une vingtaine d'années, on utilisait à outrance certains désherbants sur des talus, etc., où les escargots, à certains endroits, notamment le petit gris, a quasiment disparu. Et moi, je l'ai vu même, on parlait tout à l'heure des Deux-Sèvres. Et moi, quand j'étais gamin, on pouvait ramasser 1000 escargots dans la matinée. On allait même sur les voies de chemin de fer en chercher, etc. Et 20 ans après, quand je suis retourné, il n'y avait plus que des coquilles. Il n'y avait quasiment plus d'escargots. Aujourd'hui, c'est en train de revenir parce qu'on est en train justement de supprimer un peu tous ces produits. Et puis, on avait aussi détruit leur habitat naturel, donc toutes les murs en pierre, etc., là où ils pouvaient.
Ah oui, effectivement, oui.
Parce que quand il ne pleut pas, un escargot dans la nature, il ne sort pas, mais il faut qu'il puisse s'abriter. Donc s'il n'a rien pour s'abriter, pour lui, c'est
donc ça peut être considéré comme un animal, j'ai envie de dire, sentinelle, comme marqueur de pollution.
Ah, ça pourrait. Oui, ça peut, bien sûr. Oui. Mais là, on a beaucoup de clients qui nous disent que cette année, ils voient beaucoup d'escargots. Et on trouve ça plutôt bien, et je pense qu'on est, voilà, on est en train de revenir un petit peu en arrière, et c'est plutôt bien.
Oui, surtout que ces animaux qui sont là depuis tellement longtemps, ils font partie des premiers vivants sur la planète, ça serait dommage qu'ils disparaissent avec nos conneries, excusez-moi du terme.
Oui, on a vu d'autres espèces malheureusement disparaître.
Pour en revenir à cette bestiole, avant d'aller plus loin, j'ai vu sur une revue il y a quelques années qu'ils arrivaient à transporter 170 fois leur poids.
Déjà, il est avec sa coquille. Contrairement à la limace, elle se déplace, mais elle n'a pas sa maison sur le dos. Oui. Donc mais des fois, même nous, on les voit sur les parcs, ils sont attachés, ça peut arriver, ils sont plusieurs sur un, et il arrive à tracter les petits copains. Donc c'est une force, le pied a une force.
Alors j'ai fait le rapport, je me suis amusé à faire ce rapport. Si nous, un être humain de 70 kg, si on tractait 170 fois notre poids, c'est comme si on pouvait déplacer 12 tonnes.
Ouais.
Quand vous disiez que c'est un animal remarquable, on a la preuve là. D'ailleurs, vous me parliez de la lumière, c'est des animaux nocturnes. Et est-ce qu'on connaît leur battement cardiaque? Alors, le petit cœur qu'ils ont.
Peut-être que je l'ai vu, mais très sincèrement, je ne m'en souviens pas.
Si je vous demande ça, parce qu'en hibernation, l'hiver, ils arrivent à se cacher l'hiver pendant combien de mois à peu près?
Alors, en tout cas, nous, sur notre élevage, on peut garder des escargots. Alors, on les met dans les frigos, les reproducteurs notamment, qu'on récolte au mois de septembre-octobre. Et on peut les laisser comme ça pendant 6 mois. Ils vont perdre 30% de leur poids à peu près. L'objectif, c'est qu'en fait, c'est qu'ils ne se réveillent pas, c'est-à-dire qu'ils restent vraiment endormis profondément, parce que ça peut être ces phases de réveil justement qui vont les épuiser et qui vont les faire mourir. Mais si il dort continuellement et qu'il a bien mangé avant et qu'il est en pleine forme, il peut durer 6 mois.
Si je vous demande si vous connaissez le battement cardiaque, parce que dans la nature, nous savons toutes et tous que un animal qui se met au repos, il est obligé de ralentir énormément le battement cardiaque de manière à ne pas s'épuiser.
Ouais.
Donc certainement qu'il
doit
y avoir une différence
probablement, énorme. C'est quelque chose que je n'ai pas étudié, mais probablement, oui.
Donc, en fait, vous me parliez tout à l'heure de la reproduction. Alors en fait, on va en venir là, la reproduction. En fait, vous faites les petits, vous les faites un escargot, ça pond comment?
Oui, donc au mois de septembre-octobre, on les met dans les chambres froides, on les réveille quand ils commencent à faire meilleur, généralement c'est fin février. Donc on les stimule, on les réveille, on les met dans une serre et on les met dans ce qu'on appelle des bacs de reproduction. Donc on leur redonne à manger, etc. Ils se réveillent et l'escargot est hermaphrodite. Donc en fait, il est à la fois mâle et femelle. Mais il a besoin d'un compagnon. Voilà, pour s'accoupler et pour s'injecter les gamètes. Donc ils se retrouvent, ils s'injectent les gamètes. Donc ça dure une dizaine d'heures. En fait, une dizaine de jours après, généralement, ils pondent. Donc on leur met des bacs de ponte de terreau dans les parcs. Et puis ils pondent une centaine d'œufs.
Une centaine par escargot?
Oui, une centaine, oui. Alors ça peut être 80, ça peut être 120, mais en moyenne, c'est une centaine d'œufs.
Et le naissin, le petit escargot, après la ponte, il apparaît au bout de combien de temps?
Alors, il faut un cumul de 300 degrés. Donc, on estime à peu près, si vous êtes sur 15 jours à 20 degrés de moyenne.
En fait, c'est un cumul de température.
C'est un cumul de température sur la journée et la nuit. Donc, sur une journée moyenne à 15 degrés, par exemple, ça fait 20 jours, avec 80% d'humidité. Et là, vous avez les naissins qui sortent et qui, pareil, déjà, ont l'instinct de monter. Donc, nous, généralement, on fait ça dans des boîtes. Et tout de suite, dès qu'ils naissent, ils montent et ils se mettent sur le couvercle.
Donc, vous avez une nurserie, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Oui, on essaie. Alors, on force un peu les choses parce que dans la nature, ce que l'on fait, nous, ça se fait au mois de mai-juin.
Oui.
Les conditions météorologiques sont bonnes et qu'ils puissent pondre dans la terre et que les œufs puissent éclore. Nous on force un peu les choses dans la serre pour être prêt au mois de mai, comme je disais tout à l'heure, et pouvoir élever notre escargot en 4-5 mois et pouvoir faire la récolte au mois de septembre.
4-5 mois d'élevage pour qu'il soit à maturité.
Oui, qu'il soit à maturité si tout va bien, oui.
Et ils arrivent à atteindre la maturité sexuelle au bout de combien d'années?
C'est 4-5 mois. Une fois qu'ils sont bordés,
en fait. Relativement court,
mais même nous, dans les parcs, quand on arrive à la fin, au mois de septembre-octobre, il y en a déjà qui s'accouplent.
D'accord.
Et on arrive à retrouver même des naissins au mois de septembre-octobre dans les parcs qui sont issus des escargots lâchés au Moyen-Âge.
Ah oui, d'accord.
Ils sont rapides. Hein.
Ouais. Ah oui, c'est rapide.
Ah oui, oui.
Mais leur durée de vie, la longévité d'un escargot, c'est combien?
Alors, tout dépend des escargots. On parlait tout à l'heure du Bourgogne. On estime jusqu'à une petite dizaine d'années, 7-10 ans, sur l'escargot de Bourgogne. Après, sur le gros gris, bon, quand il craint le gel, c'est toujours plus compliqué. Hein. Il est originaire d'Afrique du Nord. Donc,
oui.
C'est toujours plus compliqué pour lui, en tout cas en France. Mais bon, on arrive à retrouver quelques escargots des fois qui se sont échappés et qui ont réussi à se planquer et qui ressortent au printemps. Donc ça veut dire quand même qu'ils arrivent parfois à s'en sortir, et je dirais 5-6 ans. Oui.
Et en élevage, si vous pouvez les laisser vivre, si vous pouvez employer ce terme, ils auraient une longévité plus importante peut-être?
Sauf s'ils gèlent, le problème c'est que s'ils gèlent, ça leur est fatal. Quoi. Après, l'escargot dans la nature, malheureusement, il a tellement de prédateurs.
Ouais.
Alors moi je suis un peu, je compare ça un peu aux tortues, vous voyez, on les voit pondre sur les plages, plein d'œufs, et puis en fait, au final, il n'y en a qu'une sur 1000 ou 10 000, je ne sais
pas,
j'ai pas les chiffres.
C'est pour ça que la ponte est importante pour assurer la vie de cette espèce.
Oui, et vous disiez à juste titre que tout à l'heure, c'était un peu fabuleux comme animal, et ben, c'est là où on voit qu'ils ont cette faculté justement à se reproduire rapidement et à faire le maximum pour que ça puisse continuer.
Pour l'hibernation, à partir de quelle température la température chute après à la sortie de l'été, l'automne, on connaît la température pour qu'il s'enterre?
C'est-à-dire qu'en dessous de 10 degrés, déjà, ils ne sont pas très vivaces. Nous, on le voit même là, on a eu quelques nuits fraîches.
Oui.
Et on le voit sur le complément alimentaire. Si les nuits sont fraîches, ils sont beaucoup moins vivaces que quand...
Voilà.
Alors, je dirais que la plage de température, la nuit, c'est 15 degrés, c'est vraiment idéal. Et au-dessus de 20, pour nous, ce n'est pas bon du tout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, où là, on arrête tout. La nuit, je parle de la nuit. Donc, ils ont... après, il y a aussi les jours. Le fait que les jours soient plus courts, je disais tout à l'heure, les fêtes périodiques, etc. Donc, dès qu'ils sentent que c'est le moment, ils s'enterrent.
En tout cas,
dans la nature.
C'est un instinct naturel.
Oui, c'est ça. Oui.
L'accouplement, il se fait comment et par où? Est-ce qu'ils ont un orifice particulier?
Ils se trouvent où? Ils ont un dard donc côté droit, donc ils se mettent tête bêche et ils s'injectent les gamètes. C'est toujours du côté droit. Donc,
là, quel c'est endroit un dard. Du corps
c'est devant. C'est devant. Un dard, en fait, vous avez le dard qui sort et qui va dans l'orifice de l'autre et il se colle comme ça et ça dure une dizaine d'heures.
Donc, combien de temps ça dure?
10 heures.
10 heures, ouais. Ah oui. L'orifice, donc, il se trouve sur la tête.
Oui, juste derrière. Oui.
Ah oui.
Ouais,
et ce dard, il est composé de... On connaît la... Est-ce que c'est du calcium? C'est quoi?
Oui, c'est riche en calcium. D'ailleurs, ça fait partie aussi de notre spécificité. C'est qu'on enlève l'appareil reproducteur quand on part les escargots, quand on les prépare, je viendrai sûrement tout à l'heure,
d'accord,
au niveau culinaire.
Ouais. Ah oui.
Ouais, parce que justement, c'est un petit peu croquant.
On va se refaire une pause musicale et on se retrouve dans un court instant.
Quand la plage frémit sous les premiers rayons, que les mouettes surgissent du brouillard de la nuit, que les fleurs sauvages osent le mauve et le gris, de la presqu'île de Gavre jusqu'au port de Quiberon, le peuple des dunes s'assemble pour hausser le ton. Ils étaient 5, ils étaient 10, puis ils furent des milliers à écrire sur le sable ton nom en majesté. Peuple des dunes, peuple des dunes, pour dire non aux ravages, pour dire non au saccage des cimentiers voraces, vampires de notre or blanc, pilleurs du patrimoine d'un pays de battants, un pays de battants. C'est un peuple debout qui se lève et qui marche. C'est un peuple fier qui force l'espérance au combat légitime, à l'esprit de résistance de tout le Morbihan. ils sont venus en masse, et c'est à Erdeven qu'il a pris naissance. Car le risque était grand de voir les eaux troublées sans que jamais le ciel ne puisse s'y refléter. En aspirant le sable, ils aspiraient la vie, poissons éventrés, embryons détruits, tandis que le plancton indésirable revit. Ils étaient 5, ils étaient 10, puis ils furent des milliers à écrire sur le sable ton nom en majesté. Peuple des dunes, peuple des dunes, pour dire non aux ravages, pour dire non au saccage des cimentiers voraces, vampires de notre or blanc. Pilleurs du patrimoine d'un pays de battants, d'un pays de battants. Alors, peuple des dunes, t'as su te mettre en marche, porte à porte marché, élus et politiques, sans oublier juristes, médias et scientifiques, pêcheurs, ostréiculteurs, tous unis d'un seul cœur. Tu oses à tout, tu fis tout pour traquer les pilleurs, mais aussi tu danses au son d'un fier bagade de loqual Mindon, venu en camarade sous les murs de Port-Louis et sous un ciel de jade, pour dire qu'au grand jamais, malgré toute cette charge, les Bretons ne seront les dindons de la Farge. Ils étaient 5, ils étaient 10, puis ils furent des milliers à écrire sur le sable ton nom en majesté. Peuple des dunes, peuple des dunes, pour dire non aux ravages, pour dire non au saccage des cimentiers voraces, vampires de notre or blanc. Pilleurs du patrimoine d'un pays de battants, d'un pays de battants. Pilleurs du patrimoine d'un pays de battants, d'un pays de battants. Pour cette lutte citoyenne, mais aussi pacifique, pour cette victoire si juste, mais aussi magnifique, témoigne en sa mémoire cette pierre levée qui veille au cœur de Gabre en gardienne éclairée et dit à nos enfants pour toujours résister. Ils étaient 5, ils étaient 10, puis ils furent des milliers à écrire sur le sable ton nom en majesté. Peuple des dunes, pour dire non aux ravages, pour dire non au saccage des cimentiers voraces, vampires de notre or blanc. Pilleurs du patrimoine d'un pays de battants, d'un pays de battants.
On se retrouve donc chez monsieur et madame Rossard qui élèvent des escargots à Saint-Mexant. Donc intéressant comme sujet puisqu'on apprend plein de choses avec des spécialistes. Tout à l'heure on parlait de la reproduction, donc l'orifice de reproduction est sur la tête, c'est original. Et dites-moi, vous sélectionnez des reproducteurs, comment ça se passe?
Oui, au mois de septembre, octobre, quand ils arrivent à maturité, on essaie de sélectionner les plus beaux spécimens qu'on va endormir. Donc on met dans la grange, dans des filets, sous ventilation, et qui jeûnent. Et puis une fois qu'ils ont jeûné et qu'ils sont endormis, on les met dans les frigos à 7 degrés, donc jusqu'au mois de février à mars.
Sur quels critères vous sélectionnez des reproducteurs?
C'est visuel. Voilà, on essaie de garder ce qu'on appelle les étalons, les étalons. Voilà, exactement. Oui. Qui ont une belle coquille, en tout cas. Voilà, c'est un peu le, qui ont une belle coquille bien formée, dont on sent qu'ils sont robustes et qu'ils vont pouvoir tenir 6 mois. Voilà.
Les haleines de l'homme de l'escargot.
Exactement.
Ah oui, c'est original quand même.
Oui.
Dites-moi donc, je ne sais pas si vous voulez poser la question. Vous en avez combien à peu près tout à l'heure, vous me disiez?
Eh ben là, on a un peu plus de 200 000 escargots, mais comme on disait tout à l'heure, avec cette perte de 30 à 50%, on espère cette année au moins récolter 140 000, 150 000.
Ça, c'est la valeur de perte pour tous les élevages d'escargots en moyenne.
Oui, en moyenne, oui.
Si vous avez l'intention de vous agrandir en nombre d'escargots, d'élevage, dans cet élevage ou pas?
Tout à l'heure, je parlais de challenge, donc oui. oui, ça fait partie de notre... là, il faut qu'on, pour la viabilité aussi de l'entreprise, il faut qu'on continue à croître. Et il y a déjà des choses qui sont en cours pour justement faire d'autres parcs et agrandir... la capacité.
Ça représente quelle surface pour de 150 000 à 200 000 escargots à peu près?
Alors, en conventionnel, comme nous, on peut monter alors jusqu'à 350 escargots au mètre carré.
350 escargots,
Nous, on ne monte pas à plus de 300. On est souvent même en dessous de 300 au mètre.
Par rapport à la qualité?
Oui, il y a ça aussi. Et puis, pour leur bien-être, voilà, aussi.
Parce que c'est un animal, certainement, comme tous les animaux, ou même nous, les êtres humains, si on est trop concentré, ils sont stressés, ça peut gêner sur la reproduction ou
et puis sur la croissance tout simplement. Oui. Et puis aussi les risques sanitaires, plus on est nombreux, et plus puis y avoir de risques bactériologiques au niveau des parcs. Ce qui est très important dans les parcs, c'est la surface de collage. Donc ça veut dire il faut qu'ils aient le maximum de surface où ils puissent
se déplacer
et se cacher.
Oui. Oui.
Donc ça c'est très important. Tout dépend aussi de la structure, comment elle est faite. Il y a tout un tas de facteurs. Voilà. Oui. Et c'est ce que je dis souvent à nos clients. Quand on visite fermé lissicole, on est très peu à travailler de la même façon. Tout le monde a sa petite touche personnelle. Nous, on estime qu'on est en apprentissage, puisque ça fait plus d'un an qu'on fait ça, donc on a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à faire, et la ferme va évoluer, je pense, au fur et à mesure de notre expérience.
Tout à l'heure, vous m'expliquiez que le fait qu'ils vivent la nuit, l'arrosage et une température trop élevée, et que si la nuit la température ne baisse pas trop, donc ça veut dire que c'est une question que je me pose, les élevages d'escargots, il vaut mieux le faire dans une région comme la nôtre l'été où les nuits sont fraîches, que sur le sud de la France, ça va être plus difficile, non?
Non, pas forcément, parce qu'en fait, ils ont une chance, c'est qu'ils n'ont pas des gelées, forcément. Ils peuvent attaquer plus tôt. Il y en a qui lâchent leur naissance au mois de mars, parce qu'ils savent très bien où ils vont avoir peu de chance de gel. Donc, quand vous avez peu de chance de gel, vous pouvez commencer plus tôt. Et il y en a déjà, moi j'ai quelques collègues qui commencent déjà à récolter leurs escargots, là. Nous, on a encore au moins un mois et demi, deux mois de production.
Donc là, vous aurez fini de les récolter à quel mois à peu près, à quel moment?
Fin octobre, normalement, ça devrait être terminé. D'accord. On va commencer, j'espère, au mois de début septembre. Parce que nous, en fait, on fait le ramassage en plusieurs fois. On récolte les plus beaux, et ceux qui ne sont pas encore arrivés à maturité ou qui ne sont pas assez gros, on les laisse et on sélectionne, en fait. On ne ramasse pas tout d'un seul coup.
Mmh. Pour en revenir à votre élevage, est-ce que 200 000 escargots, est-ce qu'on peut vivre comme vous? Vous avez le travail à deux, vous faites un travail en commun, est-ce que c'est suffisant pour vivre, quand je parle vivre, de sortir un salaire qui soit raisonnable pour en vivre
à deux? Il faut encore augmenter la capacité, il faudrait qu'on monte à 300 000, et puis après tout dépend du circuit de distribution aussi. Donc il faut aussi réussir, nous, à trouver l'équilibre sur le circuit de distribution pour assurer la viabilité de l'entreprise.
Vous avez fait le choix, vous, d'un escargot de qualité en production raisonnée, si je peux, entre guillemets, avec en bio. Dans la vente de l'escargot, ce que l'on trouve en magasin, en supermarché, beaucoup, vous me disiez tout à l'heure, ils viennent de l'étranger. Est-ce qu'ils sont aussi bien nettoyés que les vôtres, ou vous allez nous expliquer comment vous les nettoyez?
Après, moi, je ne sais pas comment les autres travaillent. Nous, on sait comment on fait. Alors pour revenir, donc quand on abat nos escargots, déjà la première chose c'est qu'on les endort. On les met dans la grange, dans des filets, sous ventilation, donc ils jeûnent et ils s'endorment. Une fois qu'ils sont endormis, c'est là où on les ébouillante. Donc en fait, l'escargot n'est pas en extension, n'est pas réveillé quand il est ébouillanté.
Donc ça, déjà, pour le bien-être animal.
Exactement, ça fait déjà c'est une obligation, mais ça fait partie aussi des spécificités françaises et de notre savoir-faire, si je peux m'exprimer ainsi. Une fois qu'ils sont ébouillantés, on les décoquille. Donc on se met chacun au bout d'une table dans le laboratoire. Moi, je les décoquille et Madame les pare. Donc les parer, ça veut dire qu'on enlève tous les pathopancréas et l'appareil reproducteur.
Ah, donc ils sont vraiment bien nettoyés. Alors, vous gardez le meilleur de l'escargot.
Alors en fait, vous n'avez que la partie noble, vous n'avez que le pied de l'escargot. Ouais, rien d'autre. Nous, ça là-dessus, on est vraiment très, voilà, très méticulés. On n'a que le pied. Donc une fois qu'on a enlevé et qu'il reste le pied, ces pieds-là sont malaxés dans un pétrin pour enlever le mucus. Parce que souvent, les gens nous disent, mais vous les faites baver. Ah non, 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 on fait pas baver nos escargots.
Vous ne faites pas baver l'escargot.
Ah non, le mucus est enlevé une fois qu'ils sont morts, en fait. Donc, c'est malaxé au moins deux fois et rincé abondamment à l'eau.
Alors ça, c'est, excusez-moi de vous couper la parole, c'est fait pour leur éviter la souffrance.
Exactement.
De les faire baver, ça les fait souffrir.
Bien sûr, oui. Donc, le mucus s'en va très bien comme ça. Et une fois que ça s'est fait, on les blanchit pendant 20 minutes. Donc, une fois que ces chairs sont blanchies, elles sont surgelées. Et donc ça, on fait ça pendant 2-3 mois. Donc, quand vous avez 100 ou 150 000 escargots à faire, ça, c'est un par un. Donc ça prend un petit peu de temps. Et puis en parallèle, il faut aussi nettoyer les coquilles, pour les coquilles à la bourguignonne. Et une fois que ça c'est fait, on a nos chairs blanchies, surgelées. Et ces chairs-là, après, sont ressorties et sont courbouillonnées pendant 1h30. Et c'est là où on fait toute notre préparation, donc l'escargot à la bourguignonne, croquis, etc. Et donc, il y a deux phases distinctes, en fait.
Je comprends que vous devez avoir beaucoup de travail. En fait, ça paraît pas, mais c'est un travail qui vous demande assez chronophage dans le temps, non ?
C'est ce qui se reflète aussi sur le tarif d'une douzaine d'escargots, c'est qu'on y passe aussi beaucoup
bien
de
sûr.
Temps. C'est le reflet du travail réalisé
le
et
travail
de la qualité.
Et la qualité se paye.
Oui, la qualité, bien sûr. Oui. J'en reviens toujours. Vous avez partie noble de l'escargot, et puis nous on essaie de travailler avec les producteurs du coin au maximum. Donc ça c'est quelque chose aussi qui nous est cher et qui fait partie de notre ADN.
On reviendra à la transformation tout à l'heure, dans un instant. Est-ce que l'escargot a une maladie spécifique ou des virus uniquement qui le touche uniquement l'escargot?
Non, on n'a pas trop de problèmes. Le seul souci, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ces risques de chaleur avec la bactériose, justement, où la bactérie, le pseudomonas, prend le dessus s'il fait trop chaud et qu'on les stimule. Mais ça peut paraître logique aussi, parce que c'est un peu contre nature, finalement. Quand il fait vraiment très chaud, la météo est comme ça. Et le fait de les stimuler, ça pourrait être contre nature. Donc, tout s'explique aussi.
La question que je me pose, c'est que est-ce que l'escargot a besoin de... vos parcs, certainement, ont besoin d'être désinfectés, nettoyés, car la partie de l'hiver, où ils sont en hibernation.
Alors, nous, on enlève tous les escargots l'hiver, on nettoie au maximum, on intègre les poules, donc qui viennent aussi nettoyer ce qui peut rester.
Donc vous avez des poules.
Oui, oui.
Mais vous les mettez dans les parcs.
Oui, on les met dans les parcs et donc elles font aussi du nettoyage.
Naturel,
et donc,
oui.
Voilà. En fait, les parcs restent, on va dire, du mois de novembre au mois d'avril sans rien. C'est-à-dire qu'on on enlève le maximum d'herbes et on ressème un couvert végétal. Et on repart comme ça d'année en année.
La question, vous allez me dire que je vais trop loin peut-être, mais l'escargot avec la quantité qu'il y a sur place, est-ce qu'il n'y a pas une surcharge d'azote sur le terrain à cet endroit-là après ?
Ça pourrait, mais après aussi tout dépend du couvert végétal que l'on fait. Vous avez certaines plantes qui vont justement vous permettre d'équilibrer. Donc c'est à nous aussi de trouver le couvert végétal qui va permettre d'équilibrer le sol. Après, votre remarque, elle est intéressante et moi je suis assez persuadé qu'à un moment donné, il faut peut-être parfois laisser en jachère pendant un an une fois qu'on a... Donc ça aussi, c'est quelque chose que, voilà, qu'on
ça
a
veut
en tête.
Dire disposer suffisamment de place pour faire tourner l'emplacement
et
du parc.
Exactement, au bout d'un certain temps, oui. Justement pour que tout puisse se régénérer tranquillement, oui.
Vous voyez, chers auditeurs et auditrices, je suis venu chez des spécialistes qui ont le respect de l'animal et le respect de la nature. On ne peut que les féliciter et leur dire merci. Pour aller plus loin, dans vos préparations, est-ce que vous avez des spécialités? En fait, vous en vendez uniquement brut, qu'il n'y a que la chair, comme disait tout à l'heure, sous vide ou congelée, comment ça se passe?
Alors nous, déjà, on travaille qu'en produits surgelés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la viande d'escargot se surgèle très bien. Il n'y a aucun intérêt à travailler sur un escargot frais. Le surgelé, c'est vraiment très bien. Les chairs courbouillonnées donc sont vendues surgelées. Et après,
ce sont des chairs au courbouillon.
Courbouillonnées, oui, courbouillonnées et qui sont en plus, on a une cellule de surgélation. Donc en fait, les escargots sont ce qu'on appelle en bille. Et donc quand vous sachez chez nous, vous pouvez venir chercher le nombre d'escargots que vous voulez. Et vous avez un an de date de péremption. Donc ça laisse une latitude intéressante.
Alors dites-moi, on va laisser un peu la parole à madame. Quand ils sont bruts comme ça, courbouillonnés, comme vous dites, on peut les préparer comment pour les consommer à la maison, chez soi?
Mais après, chacun fait comme il le souhaite,
bien
je
sûr.
Dirais.
Mais est-ce que vous conseillez des recettes particulières pour aider le consommateur?
Après, par expérience, on s'aperçoit que l'escargot se marie avec plein de choses, notamment le cochon, le poisson.
Et nous, cochon,
on fait des quiches parfois aux escargots quand il en reste un petit peu sur les fins de production.
Ah, des quiches aux escargots.
En fait, on peut faire plein de choses. Ça va avec une viande maigre.
L'escargot va très bien avec la tomate aussi, non?
Oui. On fait une recette
à la provençale.
À la provençale, oui.
D'accord, une recette à la provençale. Mais là, c'est par contre, ceux-là, ils sont tout préparés, non?
Oui. Bah, c'est notre c'est notre plus gros volume. Hein, c'est la préparation. Donc, escargot à la bourguignonne, donc en coquille, et on fait ce qu'on appelle les croquis. Donc ça, c'est pareil. C'est un format qu'on essaie de développer. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas grand monde qui connaît ce format-là et qui est un format super pour l'apéritif parce qu'en fait, vous mangez la coquille, l'escargot et la farce.
La coquille.
C'est
un petit biscuit.
Oui, c'est un petit biscuit qui est fabriqué dans le Doubs et on met l'escargot dedans et la farce. Donc, c'est une sorte de petite gaufrette. Et ça, on le décline en quatre saveurs. Donc, on le fait à ce qu'on appelle donc à la bourguignonne, beurre persillé. On le fait aussi à la tomme,
du gai avec des
prés verts qui sont juste à côté de chez nous. On le fait au chorizo. Donc, c'est mi-chorizo et mi-fromagerie également du gai avec des prés verts à côté de. Et puis, on le fait à tomate séchée, basilic, beurre.
Donc, ce que vous venez de me dire. Au fromage, c'est un gars avec des prés verts, c'est M. Martens.
Exactement.
J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps qui m'a expliqué comment il faisait ses fromages.
Vous
travaillez en coopération étroite, c'est bien.
Bah, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire travailler les producteurs locaux, parce que par ricochet, on fait travailler d'autres producteurs locaux. Donc moi, je trouve ça... plutôt bien de pouvoir... Moi, je parle souvent du gaïque des prés verts parce que j'ai souvenir, quand j'étais gamin, d'aller chercher mon lait en mini-vélo à la ferme. Et je me dis que presque 50 ans après, enfin au moins 40 ans, on peut continuer à le faire en Corrèze. Parce que c'est ma femme qui y va, mais elle va chercher le lait. Et je trouve ça super.
Le discours actuel est au circuit court, on est en pleine dent, donc oui.
Oui, ça demande un effort.
Bien sûr.
Le circuit court, parce qu'on ne trouve pas tout au même endroit, donc ça demande aussi un effort, mais ça vaut vraiment le coup, et puis ça permet aussi de rencontrer des gens, de discuter, et je pense d'avoir des produits de qualité. Et nous, on le voit aujourd'hui au niveau des marchés festifs, on a quand même la chance en Corrèze d'avoir des agriculteurs qui font des très bons produits, qui se battent pour valoriser leurs produits, et c'est bien de pouvoir faire travailler ces gens. Et
ça représente combien de recettes différentes que vous faites, ou à peu près?
Au final, aujourd'hui, on a quatre saveurs, donc quatre farces différentes. Mais là aussi, on a des projets de développer d'autres
Vous innovez, en fait.
Oui, il faut. En permanence, on fait aussi une tartinade, on fait aussi un pâté.
Un pâté.
Voilà, donc, il y a d'autres choses aussi qui
vous
vont venir.
Vous pouvez faire avec certaines épices ou des plantes naturelles que l'on trouve dans la nature, non des...
Voilà, on a pour idée de faire avec chèvre, piment d'Espelette. Donc ça, oui, mais après, il n'y a pas de limite.
On peut les faire dans un cake salé, du verre de
cuir. Oui, il y en a, j'ai des collègues qui font des cakes aux escargots. Oui, oui.
On va se refaire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de l'émission. Merci.
To the river, went down to the sea. I left my love on a sandy shore and drowned my misery. Yeah, I drowned my misery. I had me a pretty woman, as comely as could be, but she left me for another man who had better prospects than me. Oh, he had better prospects than me. So I went down to the river, oh, I went down to the sea. I left my love on a sandy shore and drowned my misery. Yeah, I drowned my misery. Oh, I had me a farm on the banks of a sweet little creek, but the rain didn't come and the dirt got hard and the bank took my farm from me. Yeah, the bank took my farm from me. So I went down to the river, oh, I went down to the sea. I left my love on a sandy shore and drowned my misery. Yeah, I drowned my misery. Of a sweet little creek, but the rain didn't come and the dirt got hard and the bank took my farm from me. Yeah, the bank took my farm from me. So I went down to the river, oh, I went down to the sea. I left my love on a sandy shore and drowned my misery. Yeah, I drowned my misery.
On se retrouve pour la fin de cette émission, donc chez Monsieur et Madame Rossard à Saint-Mexant pour les escargots. J'ai appris plein de choses, je pense que vous aussi, auditrices et auditeurs, vous avez appris plein de choses. Et on va se consacrer un peu plus, justement, à l'aspect culinaire de l'escargot. Donc, vous parliez des recettes tout à l'heure, vous avez l'intention d'innover dans les recettes. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus, Madame Rossard ? On vous laisse la parole. Honneur aux dames, quand même.
Et donc, oui, on a fait, ce qu'on disait, on a fait une tartinade. Donc, c'est moitié beurre persillé et moitié escargot haché à tartiner sur des belles tartines de pain et à passer 5 minutes au four. Donc, pour l'apéritif, ça peut changer, faire quelque chose d'original. On a aussi le pâté aux escargots, donc qui est un pâté de porc avec de l'ail et du persil, et 20% d'escargots hachés au couteau, pour bien voir ce que l'on faisait. Exactement. L'appareil, ça ne plaît pas à monsieur, donc on le fait au couteau. Et on fait également donc les 4 saveurs de croquis, et on fait des petites productions aussi de feuilleté, où l'on rajoute un peu de lardon dans la persillade, puisque l'escargot, comme on le disait tout à l'heure, s'accorde avec beaucoup de choses, et notamment avec le porc. Donc voilà, et puis on a plein d'autres projets à l'étude, on va dire.
Est-ce que l'escargot n'a, du fait de quand on trouve des escargots en supermarché, parfois qui sont fades, est-ce que ça n'a pas créé une mauvaise image? Et que ça, est-ce que ça ne coupe pas un peu le marché de découverte d'escargots comme vous, qui préparez différemment, qui innovez?
Mais on a beaucoup de gens qui nous disent ne pas aimer les escargots. Et quand on arrive à leur faire goûter, par exemple, une croquille à autre chose qu'à la persillade, en fin de compte, ils se rendent compte que c'est bon et qu'ils aiment.
Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le beurre qui est important.
Et on utilise du beurre du bon beurre de Barat de chez Duroux, nous, à Riaxentry.
Duroux à Riaxentry. Vous tapez sur la qualité partout. Donc,
oui, ouais. Donc en fait, c'est ce qui fait aussi que c'est très digeste. Plus que parce qu'on peut aussi rajouter, vous disiez tout à l'heure, de qualité, ça peut être parfois de la margarine. Donc ça change, ça change totalement.
Oui, tout à fait. Ouais. En fait, dès le départ, vous avez visé le haut de gamme.
On a tout intérêt à faire de la qualité. On est sur un produit quand même qui est festif, qu'on mange pas tous les jours. Et il n'y a pas d'intérêt à faire un produit qui n'est pas la qualité. C'est ce qu'on pense.
Là, vous voyez, on est à l'extérieur, on entend passer un avion à réaction. Et oui, c'est comme ça, on est dans la nature. Expliquez-moi comment vous commercialisez. Est-ce que vous avez des magasins spécialisés, vous faites des foires, des marchés, des restaurants?
Alors, en fin d'année, on a quelques épiceries fines avec qui on travaille. Et puis après, nous, on s'axe beaucoup sur la vente à la ferme. Donc les gens nous donnent un petit coup de fil avant et puis passent nous voir. Puis ça permet de discuter aussi, d'avoir un peu de relationnel avec nos clients. Ça, c'est quelque chose d'expliquer comment on travaille aussi. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis là, on est parti sur les marchés festifs cet été. Donc,
quel marché vous faites?
On peut nous retrouver à Naves, on peut nous retrouver à Sainte-Féréol le jeudi, le dimanche au lac du Cos, et après on fait aussi tous les marchés festifs qui sont sur des journées mais qui sont pas moins réguliers. Donc on essaie de au moins de travailler déjà autour de chez nous pour qu'on puisse nous identifier.
Et pour les fêtes de fin d'année, comme l'escargot est festif, vous faites des marchés de Noël particuliers?
Alors l'année dernière, on n'a pas pu parce qu'on n'était pas équipé quand on débutait. Et là, on est équipé maintenant, donc oui, on sera là.
Vous serez où?
Je ne sais pas encore, mais on sera là.
les environs?
Oui, on essaiera de ne pas aller trop loin et puis en fonction des opportunités.
Dites-moi, on va revenir un peu à votre élevage. Vous avez eu droit à des aides pour vous installer au départ?
Alors nous, on est agriculteurs, mais on ne fait pas partie de la PAC. On n'est pas représenté aujourd'hui. Il y a une fédération nationale qui est en train de se créer, on n'est pas représenté. Donc on a eu une aide sur le laboratoire.
Sur
le matériel de laboratoire, un dossier au niveau du département.
Alors, vous parliez tout à l'heure de pour être représenté. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas une association ou un syndicat qui regroupait votre spécialité au niveau national?
Non, la Fédération nationale, là, c'est récent. Elle est en train de se mettre en place. Il y a un gros travail de fait aujourd'hui. Donc, on espère que ça va se mettre en place. Mais on n'est que 400. Voilà. Et donc, c'est aussi, ça fait pas beaucoup sur toute la France. Donc, la fédération travaille justement.
C'est justement, si je vous pose cette question, c'est que on sait pertinemment qu'un métier, une profession, ça se défend. Donc, il faut être ensemble. On prend le cas des apiculteurs. Quand il y a eu la crise, justement, à cause des sulfates, qu'on a perdu énormément d'abeilles, le fait d'être rassemblés en association et en syndicat pour faire porter la parole auprès des instances, ça a été très important. C'est votre intérêt aussi de vous regrouper.
Oui, c'est ce qui s'est présenté aussi quand il y a, on l'a pas connu, mais quand il y a eu le Covid, en fait, où on a empêché notamment les héliciculteurs d'aller sur les marchés et de travailler, et ils avaient le droit à rien parce qu'ils n'étaient pas représentés. Donc,
c'était permis de faire cette critique.
C'était problématique, quoi. C'était vite problématique parce que pas représenté, pas d'aide. Et quand on vit de ce métier, c'est compliqué.
Ça demande quand même une grande présence. Vous arrivez à prendre des vacances?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous disiez
non,
tout à l'heure, on est privilégié. Alors donc du coup, c'est ce que je pars du principe, et plus on avance dans la vie, et plus on s'en rend compte, c'est qu'on peut pas tout avoir. Et donc aujourd'hui, le seul mois où on pourrait se libérer un peu, c'est le mois de janvier. Et puis on est tellement bien là que finalement, on reste ici, ça nous manque pas.
Vous êtes des sages, je vois. Donc, dites-moi, vous, en dehors de votre temps professionnel, vous allez me dire que c'est indiscret, mais vous avez des passions, la lecture, le cinéma, le sport, je ne sais pas, la marche ou autre.
Le jardinage. Oui, moi j'ai une autre passion, c'est la pêche, mais c'est vrai que j'ai laissé un peu, un peu de côté. Et après,
la pêche à la truite.
Oui, la pêche à la mouche.
Je
suis un amateur de pêche à la mouche.
Vous avez appris très jeune, non?
Oui, très jeune. J'ai passé de nombreuses heures au bord de l'eau. On revient toujours.
On en revient avec l'intérêt sur la nature, sur les animaux.
Oui, c'est ça. Ouais.
Moi, ce que j'ai apprécié, je vous le dis, je vous livre mes émotions par rapport à ça, c'est que vous pensez au bien-être animal alors qu'on parle d'escargot. En fait, quand on parle de bien-être animal, on voit des gros animaux, des vaches, des éléphants, des tigres ou autres. Et là, on ne pense jamais aux plus petits, qui sont pour nous humains des prédateurs, il faut le dire, nous sommes des prédateurs. Et les petits animaux, en fait, ils sont insignifiants dans notre esprit. Et moi, je trouve ça merveilleux que l'on pense à la qualité de l'animal et que l'on pense aussi à sa souffrance. C'est quand même... C'est innovant, je trouve, non? Qu'est-ce que vous en pensez dans cette société?
Oui, nous, c'est naturel. En fait, on essaie de... Voilà, que les animaux soient petits ou qu'ils fassent du bruit, qu'ils fassent pas de bruit. On essaie de respecter... au maximum, c'est la souffrance animale, c'est quelque chose qui...
Le chant des escargots, non?
Pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas, ça serait sympa. Dites-moi, les escargots, en dehors de l'aspect nourriture, est-ce qu'on peut avoir des produits dérivés d'escargots, type cosmétiques ou autre?
Oui, la bave d'escargots, c'est quelque chose qui est aujourd'hui travaillé par certains. Il y a un marché, il y a sûrement encore plein de choses à faire, mais on ne peut pas tout faire. Mais il y aurait probablement des choses encore, je pense, à créer. En plus, c'est un domaine que moi je connais bien, parce que j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique sur les extraits végétaux. Et donc, je pense qu'on a encore pas mal de choses à découvrir là-dessus aussi. Bon, peut-être une deuxième phase de notre développement, mais on n'en est pas là.
Vous aviez travaillé dans l'industrie pharmaceutique.
Oui.
Donc vous êtes certainement que la chimie de l'escargot, son aspect biologique peut-être vous interpelle.
Oui, sinon... oui. C'est des facultés, je pense, de la bave à pouvoir faire de belles choses. Oui.
Un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de granit, l'escargot a besoin de calcium, de calcaire aussi. Est-ce que vous avez un apport là, justement, parce que vous disiez tout à l'heure, s'il n'y a pas cet apport, est-ce qu'il pourrait vivre sans difficulté en élevage?
Élevage, on aurait, je pense, peut-être beaucoup de mal à avoir de belles coquilles aussi.
Oui.
Parce que c'est le calcium, il est surtout là pour ça, pour réussir à faire une coquille solide et bien formée.
La question, qu'est-ce que vous faites des coquilles? Comment vous les transformez?
Alors, les coquilles, on les utilise pour faire les escargots à la bourguignonne. Et aujourd'hui, celles qui ne sont pas belles ne sont pas valorisées. Mais là aussi, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Prendre le temps peut-être de les nettoyer, de les broyer et puis de les donner aux poules, par exemple.
Faire de la farine pour les poules, ça se fait, je pense, je crois, j'y mets un intervalle. Je crois que certains ostréiculteurs le font. garde des coquilles pour qui transforme aussi.
Oui, oui.
Il se fait même apparemment des, incorporer dans des vêtements, dans du tissu. Alors, je crois que j'ai lu ça.
Ah oui, oui, mais oui, oui. Oui, mais il y a encore plein de choses à faire.
Bien sûr, c'est
ouais,
bien.
Ouais,
il faut être innovant.
Oui, oui. Ouais.
Donc, vous êtes bien chez vous. Vous n'avez pas envie de partir. Les vacances, non. Dites-moi, comment on peut vous retrouver? Est-ce qu'on peut venir acheter vos escargots directement chez vous, dans votre ferme?
Oui.
Oui, bah après, on est sur les réseaux sociaux.
Oui.
Après, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Les coordonnées sont indiquées, à nous appeler et à venir nous voir. On est tout le temps là. Après, c'est bien de nous appeler parce que si on
avec les marchés, moins.
Oui, un peu moins avec les marchés, mais on va dire qu'on est quand même souvent là. Mais c'est bien de pouvoir qu'on soit au courant et que les gens puissent être accueillis comme il faut quand ils viennent. Donc, le mieux, c'est de nous appeler. Et puis,
donc, on vous disiez tout à l'heure, Nave, Sainte-Féréole.
Nave, Sainte-Féréole, Lac du Cos et tous les.
On a fait
Cornille, Chaméra, tous ceux qui sont
dans les alentours.
Donc, vous êtes à Fressin, je s'appelle ici, Fressin de Saint-Nexant. Quand on vient de Tulle, on tourne à droite après Poissac, c'est
Oui, c'est ça, sur la route de Saint-Clément, et c'est la deuxième à droite. Alors, c'est indiqué, hein, c'est fléché.
Vous avez un numéro de téléphone.
Oui.
Ben, ouais,
oui, bah c'est le oui, oui, c'est le 07 85 25 83 57 et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Cagouille 19 où vous avez tous les coordonnées. Et
Facebook
Cagouille 19.
D'accord.
Voilà. Donc
pour terminer cette émission, je vois que vous aimez la région. Quel regard vous portez sur notre région, vous qui venez de notre département? Est-ce que ça a été facile pour vous adapter ici? Lequel fut le regard des voisins? Et voilà, qu'est-ce que vous en retirez de votre expérience d'avoir déménagé d'une région, la vôtre, pour venir à une autre?
Bah déjà, il y a l'aspect paysage, parce qu'on est issu de la Beauce, hein, c'est plat, c'est des champs, donc on est vraiment sur quelque chose de totalement différent au niveau paysage. Après, moi, je trouve qu'on a quand même été plutôt bien accueillis par les Corréziens quand on est arrivé, qu'on a tenu un commerce. Ça s'est quand même plutôt très bien passé. Et moi, c'est ce que j'avais défini une fois sur les Corréziens. Je les trouve simples et fidèles. Donc, en fait, on est sur la simplicité. C'est ce qui nous... Ouais, qui nous plaît, on est sur quelque chose, on se sent bien en Corrèze et moi je suis ravi de voir mes enfants aussi évoluer en Corrèze aujourd'hui.
Dans un lieu relativement protégé.
Ouais, où on n'est pas trop inquiet quand ils sortent, mais ça c'est important, mais c'est vrai que quand on a vécu peut-être qu'en Corrèze, on ne se rend pas compte aussi parfois de la chance que l'on a dans des régions où on a une tranquillité et un confort de vie.
C'est important ce que vous dites, monsieur Rossard. Quand on a vécu en Corrèze, on ne se rend pas compte des fois ce qui se passe ailleurs, effectivement, qu'on a un côté privilégié d'une certaine manière. Oui.
Bah, je pense, et puis aujourd'hui, on a quand même aussi, parce qu'il faut y penser, mais on a quand même aussi des axes routiers qui nous permettent d'aller dans les quatre coins de la France assez facilement. Donc on n'est pas non plus isolé, c'est ça qui est... Et puis on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut en Corrèze, et puis on a de bons producteurs fermiers, donc c'est parfait.
Ce serait à refaire, vous feriez le même parcours?
Oui, moi je suis ravi de... Alors on me prend parfois pour un fou, hein, parce que j'ai quand même quitté une bonne place quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique pour tenir un commerce.
Et maintenant,
quand j'ai dit que j'allais faire les escargots. mais voilà, après rien n'est gagné. Et le challenge est là et on travaille et il faut continuer à travailler. Et puis,
comment vous voyez l'évolution de votre métier, de l'héliciculteur?
Bah, j'espère que c'est un métier où on va être de plus en plus nombreux parce qu'aujourd'hui, on ne représente que 10%, à peine 10% du marché. Après, pour ceux qui voudraient s'installer, c'est vrai que c'est un métier quand même qui demande du temps, qui n'est pas si simple, voilà, il faut entretenir les parcs, c'est pas on met les escargots, et c'est quand même un métier voilà, assez, je ne vais pas les plus difficiles, mais quand même assez...
voilà. Il faut une certaine délicatesse, non, pour envisager de faire cette profession quand même, parce que c'est quand même relativement fragile, même s'ils sont...
Déjà, la première chose, c'est qu'il faut aimer la nature, aimer l'observer, et puis vivre avec la nature, et pas contre la nature. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi.
Donc ça veut dire, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, ça veut dire que ce métier-là ne s'improvise pas comme beaucoup.
Oui, ouais, je pense, oui. On n'est jamais quelque part par hasard, et il faut... Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, parce que sur le long terme, sinon on s'use et si on n'est pas passionné.
Donc vous incitez d'autres personnes à s'installer, mais avec ce respect-là aussi des animaux.
Oui, ce respect-là. Et ce
côté professionnel.
Oui, il faut être professionnel. On est sur quelque chose, voilà, sur une niche, et sur un produit voilà, de qualité, et il faut rester professionnel.
Bon, cette émission se termine. Madame et Monsieur Rossard, je vous remercie vraiment de votre accueil, de nous avoir appris plein de choses. On se reverra. N'hésitez pas à venir les rencontrer. Ce sont des gens très accueillants, des professionnels, comme on vient de le dire. Et goûtez les escargots. Mangez des escargots de Madame et de Monsieur Rossard.
Écoutez, nous, on vous remercie également.
Très bientôt. Vous revenez nous voir, Bram, quand vous voulez, si vous voulez nous apprendre encore d'autres choses.
Il y aura peut-être des problèmes, des nouveautés.
Des nouveautés, ce sera avec plaisir. Vous nous appelez, on sera présent. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.